France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. En l'absence de majorité, François Bayrou n'aura d'autre choix cet après-midi que de dégainer pour la première fois l'arme du 49-3 dans l'espoir de faire adopter son budget, mais au risque bien entendu de la censure. Le Sénat examine lui aujourd'hui le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte. On en parlera avec notre invité, maire d'une commune de l'archipel dévastée par le cyclone Chido. Et puis l'actualité à l'étranger, les Européens doivent-ils fabriquer leurs propres armes de défense ou bien acheter du matériel américain pour s'éviter ainsi une guerre commerciale avec les États-Unis de Donald Trump? La question, on le verra, s'invite dans les couloirs de Bruxelles. Enfin, on se rendra à Jérusalem à l'heure où débutent les négociations pour la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu avec le Hamas. Comment gouverner dans la durée sans majorité? Déjà, Michel Barnier, pourtant vanté pour ses talents de grand négociateur, n'avait pas su trouver la réponse. Est-ce que l'obsession de la modération qui caractérise généralement le centrisme de son successeur lui permettra d'y parvenir, a priori en faisant usage cet après-midi du 49-3 pour faire adopter le budget sans vote des députés? François Bayrou abrégera certes les débats à l'Assemblée, mais pas les souffrances de son gouvernement. Pourquoi? Parce que l'utilisation de l'arme constitutionnelle débouchera immanquablement sur une motion de censure promise par la France insoumise que devraient sans doute voter mercredi les communistes et les écologistes. On ne connaît toujours pas en revanche la position des socialistes ni du Rassemblement national, sans les voix desquelles cette motion ne pourra pas passer. Et puis le Premier ministre devrait ensuite enchaîner assez rapidement. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dès ce soir, sinon même en fin d'après-midi, un deuxième 49-3 sera probablement déclenché, cette fois-ci sur la première partie du budget de la sécurité sociale qui arrive, Stéphane, en nouvelle lecture à l'Assemblée.
Oui, tout va s'enchaîner très vite, ça nous a été confirmé ce matin. La séance s'ouvrira à 16h à l'Assemblée nationale avec la présentation du projet de loi de finances tel qu'il a été négocié par la commission mixte paritaire. Il devrait y avoir plusieurs prises de parole du rapporteur, du président de la commission des finances, de la ministre des comptes publics. Puis le Premier ministre engagera la responsabilité du gouvernement via l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Et tout s'arrêtera là, car l'usage du 49-3 ouvre le droit aux formations politiques d'opposition de déposer une motion de censure qui ne peut être examinée qu'après un délai minimum de 48 heures. Par conséquent, dans la foulée, la présidente de l'Assemblée nationale appellera la suite de l'ordre du jour, à savoir l'examen du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, et on recommencera le même processus, prise de parole, rapporteur, président de la commission, ministre, puis François Bayrou engagera une nouvelle fois la responsabilité du gouvernement via l'article 49.3. Le Premier ministre veut aller vite pour éviter la motion de rejet préalable qui a été déposée sur le PLFSS, et puis pour regrouper l'usage des différents 49.3 nécessaires à l'adoption des lois de finances et des motions de censure qui s'en suivront.
Deux 49.3 donc, et combien, Stéphane, de motions de censure?
Une à coup sûr et vraisemblablement deux, étant donné qu'il y a deux 49.3. Il faut pour ça qu'un minimum de 58 députés signent la motion déposée. Il y a apparemment discussion entre les insoumis et les écologistes pour savoir qui en prend l'initiative. Toute la question évidemment est de savoir si les socialistes la voteront, puisque sans eux, sans les 66 voix de leurs députés, aucune motion ne peut atteindre la majorité. Le parti socialiste réunit en ce moment même un bureau national pour en discuter et pourrait faire connaître sa décision dans la soirée, nous dit-on. Ils sont soumis à la pression à la fois des milieux économiques et des collectivités locales qui attendent le projet de loi de finances pour boucler leur propre budget. Beaucoup d'entre elles sont dirigées par des élus socialistes. Et puis la prochaine étape, on le disait, ce sera mercredi avec l'examen des deux motions déposées. Et il pourrait y avoir deux autres 49-3 enclenchés d'ici la fin de la semaine, car il y a trois parties dans un PLFSS et qu'il faut constitutionnellement un 49-3 pour chacune des parties.
Merci Stéphane Robert. Alors on a bien compris la position délicate dans laquelle se retrouve aujourd'hui le Parti Socialiste, partagé, vous l'avez dit, entre d'un côté ceux qui ne veulent pas laisser le pays à nouveau sans gouvernement, sans budget, et puis de l'autre ceux qui veulent censurer François Bayrou, et notamment après que ce dernier a utilisé le terme de submersion migratoire, cher à l'extrême droite. Des socialistes qui restent par ailleurs sous la pression des insoumis, dont la stratégie seule contre tous a toutefois marqué le pas hier lors de l'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val de Marne. Sur le papier, pourtant, cette commune la plus défavorisée et la plus jeune de ce département de la banlieue parisienne apparaissait plutôt comme un terreau fertile, sauf que le candidat LFI s'est fait devancer de plus de 10 points par sa rivale, Les Républicains, laquelle a recueilli 49% des voix.
Et puis hier, toujours, avait lieu un autre scrutin, le premier tour d'une élection législative partielle à Boulogne-Billancourt.
Oui, 4 candidats de droite étaient en lice dans cette commune cossue des Hauts-de-Seine, bastion historique de la droite jusqu'à l'émergence du macronisme. Il s'agit d'ailleurs en l'occurrence de trouver un successeur à Stéphane Séjourné. Finalement, le candidat du camp présidentiel n'est arrivé qu'en 4e position, loin, très loin même derrière la candidate Les Républicains, pourtant ancienne suppléante justement de Stéphane Séjourné. Bref, un scrutin partiel qui a ceci au fond de très particulier, Antoine Maret, qu'il semble marqué par des enjeux à la fois locaux et élyséens.
Les enjeux locaux, c'est la domination d'une droite divisée. À Boulogne-Billancourt, la gauche et l'extrême droite ne sont que des figurants dans cette partielle. Moins de 14% pour la candidate du Nouveau Front Populaire et moins de 9% pour celui du Rassemblement National. Historiquement, cette circonscription est à droite, mais elle s'est convertie au macronisme en 2017 avec l'élection de Thierry Soler. Sauf que dimanche dernier, cette parenthèse macroniste a pris fin. Lors de ce premier tour, les formations du socle commun n'ont pas réussi à s'entendre. Ils étaient 4 candidats en lice, 3 à droite, LR, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et Nouvelle Énergie, le mouvement de David Lisnard, et un au centre, avec Renaissance. Et c'est un échec cinglant pour le parti de Gabriel Attal, dont la candidate Lauriane Rossi est éliminée dès le premier tour. Dimanche prochain, ce sont donc 2 candidats de droite qui vont s'affronter. La LR Elisabeth Demestre, très nettement en tête hier, avec plus de 38% des voix, et le candidat du parti Horizon, Antoine de Gerfagnon, 20 points derrière.
On évoquait en début de ce journal les enjeux budgétaires. Il se trouve que les sénateurs sont, eux, appelés à examiner aujourd'hui le projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte.
Oui, un texte déjà adopté à la quasi-unanimité par les députés, un projet plutôt consensuel qui contient principalement des mesures d'assouplissement, règles d'urbanisme, de commandes publiques et quelques mesures sociales. Est-ce suffisant? Ce texte de loi répond-il à l'impatience de la population et des élus? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Mikida Choumadi, maire de la commune de Dzaoudzi, l'abattoir qui se situe sur l'île de Petite Terre, l'un des territoires qui avait été particulièrement touché lors du passage du cyclone Chido. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être avant toute chose, pouvez-vous nous décrire quelle est la situation de votre commune aujourd'hui, 7 semaines donc après la tempête? Est-ce que le déblaiement des débris est avancé? Est-ce que la reconstruction de la ville a même commencé?
La reconstruction, non, mais on reprend petit à petit. On trouve un semblant de vie. L'urgence a été réalisée parce qu'il fallait absolument retrouver l'électricité. C'était ça l'urgence. Retrouver l'eau. Retrouver également la téléphonie parce que il fallait communiquer, c'était difficile de savoir qui comment on vit comment communiquer avec l'extérieur. Donc depuis quelques semaines on a retrouvé ce semblant de vie. Maintenant, il faut reconstruire mais cette reconstruction prend beaucoup de temps et la loi qui est en train d'être discutée en ce moment va prendre encore beaucoup plus de temps parce que on n'implique pas assez les élus, ceux qui sont dans le terrain, qui voient à peu près ce qui se passe. Donc j'ai l'impression qu'on décide pour nous, mais on fait confiance à nos parlementaires parce qu'on a déjà fait des remarques sur cette loi. On fait confiance à nos parlementaires et on espère que cette année on verra quelques changements. Mais on a vu beaucoup de lois se préparer, mais qui n'ont pas abouti.
Vous l'évoquiez tout à l'heure, s'agissant de votre commune, est-ce que l'aide d'urgence, donc en nourriture, en eau, parvient désormais en quantité suffisante aux habitants de l'archipel et notamment jusqu'aux plus démunis dans les bidonvilles?
On a l'impression que les aides en question, il y a eu une générosité qui s'est fait rapidement parce que ça on est reconnaissant là-dessus, mais le problème c'est que ça n'arrive pas à la bonne personne, aux bonnes personnes en fait. On a l'impression que on sait pas comment on vit. Moi, je suis désolé que lorsque je vois une personne avec une bouteille d'eau chaque jour, distribuer une bouteille d'eau à une personne, à une famille, c'est pas de la générosité, c'est pas de l'aide. Pour moi, c'est du mépris. Et c'est pas comme se faisait avant lorsqu'on avait une crise, la crise de l'eau en 2023. J'ai eu l'impression qu'on s'est bien occupé de nous. Mais là, j'ai l'impression qu'on, y a pas cet élan de générosité, en fait. Les aides sont bloquées au port de Longoni, par exemple. C'est pas organisé. Et en ce qui me concerne, dans ma commune, moi j'ai plutôt fait confiance aux associations qui nous aident beaucoup, les ONG qui nous aident beaucoup. Mais l'État, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression que ce que la population française ici a fait, j'ai l'impression qu'on ne les a pas encore reçus.
Voilà. Est-ce que ce projet de loi d'urgence, donc pour la reconstruction de Mayotte, qui doit être discuté au Sénat cet après-midi, peut changer quoi que ce soit à ce que vous venez de nous décrire?
Ce qui peut changer éventuellement, c'est régler une fois pour toutes l'histoire du foncier, parce que c'est pas tous les Mahorais qui sont propriétaires. Lorsqu'on a crié à gauche et à droite qu'il fallait absolument enlever la question d'expropriation, parce qu'on savait qu'à Mayotte, il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas titrés. Donc on avait l'impression qu'on allait nous voler aussi ce qui nous restait. Donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte que cette question d'expropriation soit enlevée rapidement de cette loi. Et c'est ce qui a été fait. L'idée maintenant, c'est de faire en sorte que les Maoris soient propriétaires rapidement. Parce que ça nous permettra parce qu'il y a eu récemment la difficulté qu'on a eue, c'est que on peut pas indemniser par exemple des administrés lorsqu'ils ne sont pas assurés. Et pourquoi on n'est pas assuré? Parce qu'on n'a pas de titre. Donc c'est à travers cette démarche qu'on arrivera à se préparer pour les prochains cyclones, je dirais, parce que c'est là où il faut se préparer pour l'avenir. Donc je pense que c'est inclus, on avait déjà fait des remarques là-dessus aux parlementaires, ce sera inclus dans cette loi et on espère que beaucoup de changements se feront à travers cette loi.
Monsieur Oumadi, quelles sont les autres priorités selon vous qui devraient être mises en œuvre rapidement par les pouvoirs publics?
Pour moi, la priorité des priorités, ça reste l'éducation. Il y a eu beaucoup d'écoles qui ont été détruites et beaucoup d'enfants qui ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils ont perdu, n'ont plus de vêtements, qui ont perdu leur matériel. Et, il faut tout remettre en place. Et là où, dans ma commune, par exemple, le système de rotation a été quasiment éliminé quand même, parce qu'on n'appliquait plus. Maintenant, avec le passage du Chido, on est revenu à l'ancien temps. Donc maintenant, chaque enfant a droit à 4 heures de cours par jour. Et pour moi, c'est pas une égalité, c'est pas l'égalité républicaine. Donc l'accent doit être vraiment mis sur l'éducation. Et j'ai l'impression que là encore, on prend du temps et on nous demande à nous, les communes qui n'ont pas de moyens, d'avancer les travaux et puis attendre à ce qu'on soit remboursé par la suite. Et là encore une fois, on est un peu pessimiste parce que déjà le budget n'est pas encore voté ici et pessimiste également parce que la Fondation France qui a eu quand même 40 millions qui a réussi à récolter 40 millions d'euros jusqu'à maintenant, on ne sait pas comment les utiliser parce que ce sont les associations qui doivent éventuellement répondre aux appels à projets. Donc les collectivités qui en ont vraiment besoin n'ont pu pas travailler avec Fondation de France.
Voilà. Bien compris. Merci Mikidash Oumadi, donc maire, je le rappelle, de la commune de Dzaoudzi, l'abattoir qui se situe sur l'île de Petite Terre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Ils s'étaient mis en grève pour toucher tout simplement leur salaire et ils ont finalement été victimes de représailles.
Oui, ces conducteurs de poids lourds embauchés en France par le sous-traitant d'un grand groupe de transport allemand, Engelmann, devraient, selon la loi et leur contrat de travail, percevoir recevoir 1500 euros de salaire. Or, non seulement depuis le mois d'octobre, leur paye n'est que de 700 euros, mais en décembre dernier, ils n'ont même pas été payés. Wafia Kenij, bonjour.
Bonjour Thomas.
Début janvier, 3 salariés originaires du Zimbabwe ont donc fait grève pour protester. Et depuis, Wafia, leur vie a basculé.
Oui, ces 3 chauffeurs sont restés plusieurs jours enfermés dans leur cabine, dans la cabine de leur véhicule, sans nourriture ni chauffage, transit peur. Des hommes de main missionnés par l'entreprise slovaque sont venus sur l'aire d'autoroute où ces 3 chauffeurs routiers étaient stationnés. Ils ont pris leur remorque et leurs marchandises. Ils ont endommagé leur camion pour le rendre inutilisable. Des actes criminels imputables aux sous-traitants, mais aussi au groupe allemand Hegelmann qui fait appel à lui. Patrick Blaise, secrétaire fédéral CFDT Route.
L'entreprise Hegelmann en Allemagne a été condamnée à multiples reprises pour ce genre de fait. Et ce qui est le plus condamnable, c'est que ces personnes-là ne travaillent que dans leur véhicule, ne vivent que dans leur véhicule, dorment dans leur véhicule, n'ont rien du tout d'autre que ça et on leur donne même pas leur salaire.
Une situation qui n'est pas isolée et qui concerne aussi des entreprises françaises qui font parfois appel à ces sous-traitants sans scrupules, fragilisant au passage le secteur du transport dans le pays.
C'est eux-mêmes qui se mettent des balles dans le pied en utilisant de la sous-traitance à très bas prix comme ils le font, puisque bien entendu, quand vous ne payez pas vos conducteurs ou que vous ne les payez qu'à 700 euros par mois, c'est du dumping social qui est incroyable, mais qui malgré tout, on ne fait pas ce qu'il faut pour contrôler suffisamment ces transports. Et c'est derrière le salarié qui trinque, et là on voit des esclaves des temps modernes.
Pour lutter contre ce phénomène, la CFDT demande au ministère des Transports de créer des postes de contrôleurs sur les routes et le cas échéant d'immobiliser les véhicules de ces patrons voyous qui ne respectent ni le droit européen ni le droit français.
Merci Wafia Kenij.
Midi et 46 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
C'est une nouvelle semaine cruciale qui commence au Proche-Orient avec une question simple, la trêve va-t-elle être prolongée à Gaza? C'est là tout l'enjeu des négociations qui débutent aujourd'hui pour discuter des modalités de la mise en place de la deuxième phase du cessez-le-feu censé commencer début mars, comme le prévoit l'accord annoncé mi-janvier. Sauf qu'évidemment, rien ne sera simple. C'est une correspondance à Jérusalem, signée Thibault Lefebvre.
C'est aujourd'hui que les discussions vont entrer dans le dur parce que l'accord annoncé mi-janvier par le Qatar a mis sous le tapis les principaux points de friction pour d'abord faire taire les armes avant de trouver une éventuelle issue au conflit. Premier objectif, la libération de tous les otages. Israël ne veut plus du Hamas après la guerre et on ne voit pas bien pourquoi l'organisation islamiste qui continue à diriger Gaza libérerait les derniers otages qui constituent aujourd'hui son assurance vie. Deuxième objectif, la fin de la guerre et le retrait total des troupes israéliennes. Benjamin Netanyahou n'a jamais voulu abandonner le corridor de Philadelphie à la frontière égyptienne et surtout, il a promis à son extrême droite dont il dépend pour se maintenir au pouvoir que la guerre reprendrait après la première phase de la trêve. Les points de blocage sont toujours les mêmes depuis fin mai. Le contexte a en revanche changé avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Les discussions avec le premier ministre israélien qu'il reçoit demain à la Maison Blanche s'annoncent houleuses.
Après que le président américain Donald Trump a mis à exécution ce week-end sa menace d'imposer à partir de demain des droits de douane sur les produits en provenance de ses 3 principaux partenaires commerciaux, Chine, Mexique et Canada, les places asiatiques ont toutes lourdement chuté ce matin à l'unisson d'ailleurs de la devise mexicaine et de la monnaie canadienne. Alors pour le milliardaire républicain qui reconnaît clairement que les consommateurs comme les entreprises américaines risquent d'être les premières victimes collatérales de sa décision unilatérale, c'est là, selon lui, le prix à payer pour un nouvel âge d'or aux États-Unis. D'ailleurs, le nouveau locataire de la Maison Blanche ne compte pas s'arrêter en si mauvais chemin puisqu'il menace également d'imposer des droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, il se trouve qu'aujourd'hui même, Fabien, les dirigeants des 27 se retrouvent donc avec le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN pour tenter de doper les dépenses de défense du vieux continent face bien sûr à l'agressivité de la Russie, mais aussi au moment où le tonitruant Donald Trump Trump, toujours lui, répète sur tous les tons que l'Europe ne doit plus tenir la protection américaine, comprenez dans le cadre de l'Alliance Atlantique pour acquise. D'où la tentation de certains de faire d'une pierre deux coups, en clair, acheter des armes aux États-Unis pour non seulement compenser la cadence à la peine de l'industrie européenne et s'éviter par ailleurs le spectre donc d'une guerre commerciale.
Effectivement, et c'est face à ce double défi que les chefs d'État et de gouvernement sont réunis en ce moment. Il s'agit de moins dépendre des approvisionnements américains. Première difficulté, car tous les Européens ne sont pas alignés, certains comme la Pologne étant davantage habitués que d'autres à passer des deals bilatéraux avec les États-Unis. Ensuite, deuxième difficulté, comment financer l'effort industriel européen ? Des enjeux essentiels et même existentiel pour l'Europe à entendre Emmanuel Macron lors de son arrivée au sommet il y a un peu plus d'une heure.
Ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment même, en Ukraine, ce qui se passe avec aussi les choix, les déclarations américaines de la nouvelle administration du président Trump, eh bien, pousse les Européens à être plus actifs pour aller plus loin sur leur industrie de défense. Comment l'Europe produit davantage pour elle-même ? Comment l'Europe assume d'investir davantage sur son avenir ? Et c'est en décidant d'acheter, de préférer les achats européens, qu'elle sera plus indépendante, c'est assez simple.
Pas de décision attendue en fin de journée. Pour autant, nous expliquons ici à Bruxelles, cette rencontre informelle est davantage conçue comme un brainstorming. Les institutions européennes donnent rendez-vous au printemps pour la publication d'un livre blanc sur la défense, puis en juin pour les premières décisions.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles avec Benjamin Thiot pour les moyens techniques. On termine avec un mot rapide du temps pour cet après-midi. Couvert au nord, ensoleillé au sud. Les températures, elles sont comprises entre 4 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.